Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce matin, nous allons étudier tout le chapitre 3 de l'épître aux Philippiens. Alors, on ne va pas le lire parce qu'il est assez long. Je l'ai lu hier avant-hier, il est assez long et je n'aimerais pas vous libérer trop tard ce matin. Mais je vous encourage chez vous à lire tout le chapitre 3 de l'épître des Philippiens. On va juste prendre quelques passages où l'apôtre Paul, dans cette épître, nous explique quels sont les principes importants pour être heureux. Et de ce chapitre, le numéro 3, on va voir 5 habitudes à développer et 5 pièges, et un peu plus 7 pièges à éviter pour nous permettre de grandir dans ces habitudes et devenir heureux. La première habitude à développer chaque jour, c'est chaque jour, détends-toi dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, il nous faut apprendre à nous relaxer, à nous reposer dans la grâce de Dieu. C'est crucial si nous voulons être heureux. Vous savez, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et pas une religion, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Il est venu nous apporter la grâce. La nouvelle alliance dans laquelle nous vivons, c'est l'alliance de la grâce. Et nous devons réaliser ce que cela signifie réellement. Lorsque nous n'arrivons pas à nous reposer dans la grâce, nous essayons souvent d'acheter l'amour de Dieu par nos actes et par nos efforts. Nous essayons de faire des bonnes œuvres et on pense qu'en faisant des bonnes œuvres, on va acheter l'amour de Dieu. C'est une erreur. On va voir que c'est une erreur. Dieu nous aime en dépit des bonnes œuvres. La Bible dit que lorsqu'on était ennemi de Dieu et qu'on ne l'aimait pas, il nous a aimé le premier alors qu'on ne l'aimait pas. Et du coup, lorsqu'on devient chrétien, on pense qu'il faut faire des choses pour qu'il nous aime plus. Rien de ce que nous pouvons faire va faire en sorte que Dieu nous aime plus. Et le problème de la religion, c'est qu'elle va nous faire croire qu'il faut faire des choses pour que Dieu t'aime. C'est faux. Et quand on fait ça, on n'arrive pas à se reposer dans la grâce de Dieu. Quand on fait ça, on pense qu'il faut performer pour être plus aimé. C'est une erreur, c'est un mensonge de l'ennemi. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:3, « Nous mettons notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. » L'apôtre Paul dit ici, « Écoute, je mets ma fierté, ma confiance dans ce qu'a produit Jésus et dans ce que produit Jésus et non pas dans ce que je produis. » Il y a une différence. Il parle ici de l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, en réalité, nous apprend à nous relaxer dans la grâce. Parce que si nous avons la foi, alors nous aurons véritablement des œuvres. Mais parfois, on peut avoir les œuvres, mais pas la foi. On peut faire de bonnes œuvres sans la foi, mais on ne peut pas avoir la foi sans les œuvres. C'est comme avec du lait, tu peux produire du beurre. Mais avec du beurre, tu ne peux pas produire du lait. Si tu as du lait, tu peux avoir le beurre. Mais si tu as du beurre, tu ne peux pas avoir le lait. Il en est de même de la foi. Lorsqu'on se repose dans la grâce, on comprend qu'il nous faut apprendre à vivre par rapport à ce que Jésus a produit et par rapport à ce que Jésus produit en nous et au travers de nous. Et du coup, on se repose et on se relaxe dans ce qu'il fait en nous et au travers de nous, dans ce qu'il a fait à la croix. Et on ne dépend pas donc de nos propres actions. C'est très important. C'est ce que Jésus a produit et produit qui compte. C'est uniquement par sa grâce. Et le piège à éviter dans cette habitude à développer, c'est le légalisme. Parce que le légalisme vole notre bonheur, vole notre joie. Lorsqu'on croit qu'il faut acheter l'amour de Dieu. Le légalisme, c'est l'attitude que j'ai lorsque je veux acheter son amour par mes actions. Vous savez, comment voir si on est sur le légalisme? C'est lorsque Quelque chose nous arrive de terrible et on dit mais pourtant, et on commence à dire mais pourtant je fais ça pour lui, pourtant je fais ci, pourtant je fais de bonnes œuvres, pourtant je lui donne ma vie. Là, sans se rendre compte, on ne se repose pas dans la grâce. On pense que nos œuvres ont plus de puissance que son œuvre. Et on est plus conscient de nos œuvres que de son œuvre à la croix. Et du coup, on est sous la performance, pas sous la grâce. Et ça, ça vole le bonheur. Ça vole la joie. Et ça nous empêche de nous reposer dans la grâce que Dieu a pour nous. Nos bonnes actions ne peuvent pas nous sauver. C'est son action qui nous sauve. C'est son action qui fait de nous ses enfants et qui nous change. Comment savoir si nous sommes légalistes? C'est lorsque nous nous sentons coupables lorsqu'on ne fait pas le bien. Et nous condamnons aussi les autres lorsqu'ils ne font pas le bien. Quelqu'un qui est légaliste, c'est quelqu'un qui critique beaucoup. Il critique beaucoup les autres et il se critique beaucoup lui-même. Parce qu'il regarde aux œuvres, il regarde à la performance. Si tu agis bien, tu es un bon gars. Si tu agis mal, tu es un mauvais gars. Et les pharisiens dans les évangiles étaient comme ça. Et ils blâmaient à chaque fois Jésus en jugeant sur « Oh, il est là en compagnie d'une mauvaise personne, pas bien » et le condamnaient parce qu'ils étaient légalistes. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère et dit « Oh, la loi de Moïse dit que si une femme est prise en flagrant délit d'adultère, il faut réellement la lapider. Toi, que dis-tu ?» Celui qui est légaliste critique beaucoup. Il parle beaucoup sur les autres. Et il condamne beaucoup les autres. Dès que l'autre fait une faute, il attaque. Et dès que lui-même, il est pris en faute, il est sous la condamnation. Vous savez, la condamnation, c'est être constamment conscient que je suis sous le jugement d'un péché parce que je n'ai pas respecté ceci ou cela, parce que je n'ai pas fait une bonne chose. Alors je me sens coupable et je suis condamnable parce que je n'ai pas fait une bonne chose. Ou je me sens coupable parce que les gens disent que je suis pas bon ou je suis mauvais. Alors je me sens condamné. C'est impossible d'être joyeux quand tu es comme ça. C'est impossible de manifester la joie si on pense comme ça. Ça s'appelle le légalisme. C'est une façon de penser qui est focalisée sur la performance. C'est un exemple, lorsque les enfants grandissent et qu'ils travaillent bien à l'école, les parents disent « Oh, je t'aime mon chéri, tu en es 20 sur 20, waouh !» Et quand ils emmènent zéro, ils disent « Franchement, deux tapins. C'est n'importe quoi, espèce de conque. » Et là, qu'est-ce que l'enfant pense? L'enfant pense aimer elle-même, mes parents m'aiment quand je suis performant. Et mes parents ne m'aiment pas quand je suis mauvais. Donc l'amour égale faire des choses performantes et des bonnes choses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas attendu qu'on performe pour nous aimer. Lui-même a performé une œuvre à la croix parce qu'il savait qu'on était incapable de performer quoi que ce soit de bon. Donc, celui qui a une mentalité qui est légaliste va souvent condamner les autres et lui-même. C'est ne pas là apprendre à se reposer dans la grâce. Celui qui est dans la grâce, il est constamment conscient que Jésus a pris le jugement de ses péchés sur lui. Par amour, il a payé le prix pour toi et pour moi. Cela ne signifie pas qu'on doit faire n'importe quoi, non, non, non. La grâce est une force. Quand tu es conscient de la grâce, tu es constamment conscient de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et la croix est bien plus actuelle que n'importe quelle mauvaise chose que tu as pu faire. Tu te rends compte et tu es plus conscient que ce qu'il a fait à la croix parle plus fort, a plus d'influence, a plus de poids que n'importe quelle bonne œuvre ou mauvaise œuvre que tu aurais pu faire. Tu es plus conscient de ça parce que tu sais que son sang t'a racheté. Et tu sais que son sang a été versé pour te sauver. Et là, tu es conscient. Et tous les matins, lorsque tu pries, tu dis, oh Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie. Et la croix devient actuelle. La croix, c'est plus il y a 2000 ans, c'est maintenant. Et la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu médites sur sa bonté. Et cette bonté-là te rend bon. On ne peut pas changer les gens en étant méchant avec eux. On change les gens parce qu'on est bon avec eux. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous à la croix. Il a manifesté sa bonté en nous donnant son Fils qui est plus que suffisant. Afin que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Pas à la pénitence. À la repentance. Une précieuse personne témoignait. Elle disait, oh j'ai mal fait quelque chose. Et j'ai dit, oh Seigneur, accorde-moi une pénitence. Dieu ne nous accorde pas une pénitence, il nous accorde la repentance. Jean-Baptiste et Jésus ne disaient pas, pénitencez-vous, parce que le royaume des dieux est proche. Ils disaient, repentez-vous, change ta façon de penser. Sois conscient de sa grâce. Sois conscient de ce qu'il a fait pour toi. Il a fait de toi et de moi un fils et une fille du roi des rois. On est appelé enfant de Dieu par le moyen de la foi, par l'action de Jésus-Christ à la croix. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. C'est pas par nos bonnes œuvres qu'on devient ses enfants, c'est par son œuvre. Notre identité dépend de ce qu'il a fait et non pas de ce qu'on fait. Et on doit faire des bonnes œuvres à partir de la révélation de notre identité en lui. Et pour avoir la révélation de notre identité en lui, il faut comprendre que nous devons être conscients de sa grâce. Sa grâce nous exprime sa bonté envers nous. Et sa bonté nous pousse à nous repentir. Sa bienveillance nous rend bienveillants. Quelqu'un qui marche sous la grâce est bienveillant. Amen. Parce qu'il est conscient. Au lieu d'être conscient constamment par les erreurs des uns et des autres, il est conscient et dit, oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce pour moi comme ta grâce pour eux. Heureux les miséricordieux parce qu'ils feront miséricorde. Ils obtiendront miséricorde. Tu as tellement reçu, tu reçois le pardon que tu contemples la croix, que tu contemples la résurrection. Et ce que tu reçois comme pardon, tu es capable de le donner. Tu ne le donnes pas comme un effort pour plaire à Dieu. Tu le donnes avec amour parce que toi-même, tu l'as reçu gratuitement. Et tu as la révélation de qui tu es en lui. C'est ça, apprendre à se reposer dans la grâce. C'est apprendre à ne plus vivre sous la condamnation. Tu réalises que l'ancienne créature est morte et qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Tu réalises Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que tu es en lui. Ta pensée a été repentie, c'est-à-dire tu as changé de façon de penser. Au lieu de constamment regarder à tes erreurs et aux erreurs des autres et à la performance de tout un chacun et de te comparer aux autres, tu ne compares plus personne, mais Christ, l'incomparable, est l'objet de tes pensées. Et tu médites sur ce qu'il a fait, et tu médites sur son action, et tu es choqué par sa bonté. Et sa bonté te fait tomber sur tes deux genoux, et là, estomaqué, tu es sans voix. Et la seule chose que tu peux faire, c'est l'adorer. Et le remercier pour sa bonté. Parce que tu as obtenu quelque chose que tu n'aurais pu jamais obtenir par tes propres efforts, mais par son effort. Ça, c'est apprendre à se reposer dans la grâce. Et tu te rends compte que tu es un enfant de Dieu. Et que si Dieu guérit, c'est pas par tes performances. C'est à cause de la croix. C'est à cause de son sang. À cause de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit. Et tu es ferme dans ton identité. Ton identité ne dépend plus de tes activités ou du regard des autres. Mais tu comprends que tu es détaché de ça. Tu comprends qu'à la croix, tu as été libéré de toi. Et si tu es libéré de toi, tu es libéré des autres. Et tu es capable de dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tu grandis là-dedans. Et tu comprends que, attends, c'est par rapport à qui tu es en lui que tu es capable d'imposer les mains parce qu'il veut Il veut que tu révèles qu'il est merveilleux. Il veut que tu révèles qu'il est grand, fort et puissant. Mais ce ne sera pas par nos efforts. C'est par son effort à la croix. C'est ce que Dieu veut. Et là, tu le célèbres. Parce que c'est impossible par nous-mêmes. Et quand tu te apprends à te reposer dans la grâce comme ça, oui, tu t'éloignes du péché. Parce que la grâce est une force qui nous permet de surmonter le péché. Donc tu cherches pas à pécher, tu cherches à le connaître, lui. Galates 4, verset 15 nous dit, « Où est donc l'expression de votre bonheur ?» Ici dans Galates, les chrétiens de Galatie ont commencé à tomber dans la religion. Et les gens sont venus les voir et leur ont dit, « Il faut vous faire circoncire. » Il faut des jours spéciaux. Il faut que vous fassiez des efforts si vous voulez être sauvés et changer de vie. Et l'apôtre, ils commencent à perdre leur joie. Ils commencent à perdre leur bonheur. Ils commencent à être heureux, à malheureux plutôt. Et l'apôtre Paul dit, hey, où est donc l'expression de votre bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Le mot « joie » dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot « chara ». Et le mot « grâce » dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot « charis », qui est donné « charismatique ». Charisme. Les deux mots ont la même racine. Cela signifie que pour vivre dans la joie, il faut être enraciné dans la grâce. Enraciné dans la grâce. Parce que tu es conscient. Et chaque matin, quand tu commences à prier, tu dis, wow, Jésus, merci. Tu es bon. Amen. Point numéro 2. Chaque jour, focalise-toi sur ce qui est le plus important. Philippiens 3, 7 nous dit, toutes ces choses sont constituées à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Ici, l'apôtre Paul dit, j'avais des choses qui paraissaient vraiment importantes pour moi quand je ne connaissais pas Dieu. Ces choses paraissaient vraiment importantes, mais aujourd'hui, à cause du Christ, elles ont perdu de leur importance. Et chaque jour, apprendre à se focaliser sur ce qui est plus important est une habitude cruciale si nous voulons apprendre à être heureux. Si je demande au couple ici présent, est-ce que les petites choses de la vie sans importance nous enlève parfois des moments de bonheur et crée des tensions, des disputes. Si vous êtes humain, vous allez dire oui. Parce qu'on focalise souvent sur les choses sans importance. Or, quand Jésus-Christ, il faut que nous puissions apprendre qu'il faut réapprendre à découvrir ce qui est réellement important. Pour certains, par exemple, avant de connaître Christ Jésus, leur carrière était plus importante que leur famille. Pour d'autres, avant de connaître Christ Jésus, leur passion était plus importante que leur femme ou leur mari. Et quand ils ont découvert Jésus, ils se sont rendus compte. Il y a eu un changement de valeur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes. Philippiens 1, 9 nous dit ceci. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. L'amour de Dieu n'est pas aveugle. L'amour de Dieu discerne. L'amour de Dieu voit ce qui est important. L'amour charnel rend aveugle. L'amour diabolique nous fait voir que les défauts. C'est un amour égoïste. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. C'est ta faute. Mais l'amour de Dieu nous apprend à discerner ce qui est réellement important. Et l'apôtre Paul dit, je prie que votre amour augmente de plus en plus en parfaite connaissance et en vrai discernement. Il prie pour que nous puissions réapprendre à retrouver ce qui est vraiment important. Et le piège de cette habitude, c'est lorsqu'on confond ce qui est important pour Dieu et ce qui est important pour le monde. Ça, c'est un danger. Aujourd'hui, par exemple, avec toutes les publicités qu'il y a, le monde nous fait croire que pour être quelqu'un, Il faut avoir, par exemple, il faut être bien, absolument bien habillé tout le temps. Les enfants grandissent en disant « Je suis quelqu'un si j'ai un vêtement de marque. Je suis quelqu'un si j'ai un super travail. Là, j'ai de la prestance. Là, j'ai de la notoriété. » Le monde met les valeurs là-dessus. Les infos, tous les jours, nous font croire que c'est ce qu'ils diffusent qui est vraiment important dans la journée. C'est faux. C'est pas ce que les infos diffusent qui est vraiment important dans la journée. Il y a des choses plus importantes que ça. Peut-être qu'il y a des choses importantes, mais ce n'est pas les plus importantes. Peut-être qu'ici, tu es quelqu'un qui aime lire le journal le matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les infos. Et le journal qu'on peut prendre le matin et on attend les dernières nouvelles, qu'est-ce qu'il va avoir, et on est là à l'affût. Ce journal aujourd'hui qu'on attend avec impatience, peut-être que le lendemain, tu donnes à ta femme pour essuyer la vitre avec. L'info est passée et tu te rends compte que c'était vain. Le piège pour jeunes et moins jeunes, c'est que l'amour de Dieu nous apprend à discerner ce qui est vraiment important. Et qu'on arrête de croire ce que le monde veut nous faire croire qui est important. À la fin de nos jours, ce ne sera pas ta passion ou ta carrière qui sera à ton chevet pour t'encourager. Ce sera ta femme, tes enfants, tes amis. Donc, chaque jour, apprenons, si nous voulons être heureux, à développer cette habitude, réévaluer ce qui est vraiment important. Troisième habitude, c'est chaque jour, cherche à mieux connaître Jésus. Je sais maintenant, aujourd'hui, plus que jamais auparavant, que la chose la plus formidable qu'il peut arriver à quelqu'un dans son existence sur terre, c'est non seulement de rencontrer Jésus, mais d'apprendre à le connaître plus intimement. Rencontrer Jésus, c'est la chose la plus formidable qui puisse arriver à un être humain. L'apôtre Paul dit au verset 8, « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Connaître Christ doit être une habitude que tu dois chercher à développer chaque jour. Connaître Christ, c'est pas le connaître de manière intellectuelle, c'est pas le connaître de manière théologique, c'est pas le connaître avec ta raison, c'est expérimenter Jésus. Connaître Christ, c'est expérimenter Christ. Connaître Christ, c'est goûter au combien il est bon. Par exemple, on dit Dieu s'appelle l'Emmanuel, et c'est vrai, c'est ce qu'il est, c'est ce que la parole de Dieu dit. Avec nous, il vit en nous. Mais as-tu expérimenté vraiment qu'il est en toi? L'expérimentes-tu encore aujourd'hui? Expérimentes-tu Dieu en toi? Expérimentes-tu Jésus en toi? S'il est en toi, et si tu le connais, tu dois l'expérimenter. Connaître Christ, c'est expérimenter Christ. Connaître Christ, c'est expérimenter la paix. Connaître Christ, c'est expérimenter la joie. Connaître Christ, c'est expérimenter la vie. Connaître Christ, c'est expérimenter la force. Connaître Christ, c'est expérimenter l'amour qui surpasse toute intelligence. Connaître Christ, c'est expérimenter la sagesse. Connaître Christ, c'est expérimenter la foi. Connaître Christ, c'est expérimenter une protection surnaturelle. Connaître Christ, c'est expérimenter le surnaturel. Connaître Christ, c'est connaître qu'il est notre rocher, notre refuge. Connaître Christ, c'est connaître la vérité. Connaître Christ, c'est connaître la liberté. C'est ça, connaître Jésus. Mais c'est ça, connaître Jésus. C'est ça, connaître Jésus. Jésus, c'est pas juste les frères et sœurs qui se rassemblent et on est bien, waouh, super. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Connaître Christ, c'est expérimenter sa gloire. Connaître Christ, c'est goûter à sa bonté. C'est expérimenter sa bonté. Connaître Christ, c'est connaître la miséricorde. C'est goûter, expérimenter sa miséricorde. C'est pas connaître une théologie. C'est pas connaître un concept. C'est pas connaître une philosophie. c'est le connaître personnellement. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. On peut connaître des choses à propos des stars. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, ce que tu veux, Justin Bieber pour les jeunes. On peut connaître des choses à propos d'eux, mais tu ne les connais pas individuellement. Et pour connaître une personne, il faut la connaître personnellement. Et pour la connaître personnellement, il faut passer du temps avec elle. Et le piège de cette habitude, donc, c'est l'activité, les occupations. Lorsqu'on n'a jamais le temps pour prendre du temps à passer avec Jésus. Lorsqu'on est trop occupé, trop fatigué, le travail, la famille, les enfants. Commence à changer ça, tombe pas dans ce piège, donne-le 10 minutes en plus par jour, le matin, le midi ou le soir, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure si tu peux, mais passe du temps avec Jésus. L'apôtre Paul dit, oh, tout le reste, je le considère comme de la boue. J'ai compris que ça a une moindre importance. À cause de quoi ? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que tu as découvert que connaître Christ, c'est excellent ? C'est bon ! Il n'y a rien de comparable. Connaître Christ et l'expérimenter, c'est waouh ! Jésus-Christ est énorme. Il est waouh. Connaître Christ, c'est connaître la passion. Connaître Christ, c'est connaître le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Il est passionné pour toi. Et que tu deviens passionné, que tu découvres qu'il est passionné pour toi, alors tu deviens passionné pour lui. Et tu deviens passionné pour les autres. Et tu goûtes à quelque chose que le monde ne connaît pas. Que tu connais Christ, tu expérimentes la vie. Quelle vie ? La vie éternelle, la vie au-dessus, la vie d'en haut, la vie qui n'est pas de ce monde. La parole de Dieu, les gens viennent voir Jésus, il dit, qu'est-ce que la vie éternelle ? Et il dit, la vie éternelle, c'est de me connaître, moi et celui qui m'a envoyé. La vie éternelle, c'est de me connaître, moi et celui qui m'a envoyé. C'est de ça qu'on parle. Pas juste d'une religion, d'une relation. Tu reposes dans la grâce de Dieu. Et là, tu commences à te renouveler en découvrant les choses qui ont vraiment de l'importance. Et ce qui a vraiment de l'importance, c'est de mieux le connaître lui. Et chaque jour, quand tu apprends à mieux le connaître lui, alors tu te réexamines toi-même et tu cherches à grandir. C'est la quatrième habitude. Alors chaque jour, tu commences à te dire, attends, je veux être comme toi, Jésus, je veux m'améliorer. Je veux être un meilleur mari, un meilleur pasteur, un meilleur ami, un meilleur père, un meilleur fils. On a tous des défauts, on a tous des faiblesses. Et tu dis, oh Jésus, mais toi, tu peux me changer. Tu m'accordes la repentance. Et c'est sa grâce. Et comme David a prié dans le psaume 139, au verset 23, il dit, sonde-moi, oh Dieu. Pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. David dit, Seigneur, sonde-moi. Et le matin, quand je cherche Christ, dit, Seigneur, je veux être comme toi. Peut-être que tu es encore trop en colère, peut-être que tu as trop de jalousie, peut-être que tu as trop de rancœur, peut-être que tu manques de passion, peut-être que tu as trop de critiques, peut-être que tu... je ne sais pas. Mais si tu veux être heureux, apprends à changer ça par sa grâce. Apprends à changer ça par sa grâce. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas dire que je suis parfait. Je n'ai pas encore appris tout ce que j'aurais dû, mais je continue à travailler en vue de ce jour où je serai finalement tout ce que pourquoi le Christ m'a sauvé et veut que je devienne. Non, mes chers frères, je ne suis pas encore complètement celui que je devrais être. C'est extraordinaire. L'apôtre Paul dit, oh, je ne suis pas encore celui que je devrais être. L'apôtre Paul est l'apôtre qui a écrit les un tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre dit même de l'apôtre Paul qu'il, des fois, il a du mal à réaliser le niveau de révélation que cet homme-là avait. L'apôtre Paul est ici en prison. Il est un des hommes les plus matures à cette époque et parmi toutes les époques que la terre ait portées. C'est l'un, si ce n'est le plus grand serviteur de Jésus-Christ. Il est sur la fin de sa vie. Son mouchoir guérit les malades, son mouchoir fait fuir les démons. Bougue est dangereux. Et il dit, non, je n'ai pas encore tout appris comme j'aurais dû apprendre. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Je ne suis pas encore devenu exactement ce que Dieu veut que je devienne. Waouh! Donc là, ça nous laisse à tous une marge. Et il faut de l'humilité pour ça. Pour apprendre à se remettre en cause chaque jour. Et vouloir changer, il faut de l'humilité. Donc le piège face à cette habitude, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est juste, écoute, je suis comme ça, m'a toujours été comme ça, ben, prends le paquet comme ça. Il ne changera pas. Ça, c'est la personne en train de dire, je suis un gros orgueilleux. Quand quelqu'un dit, je suis comme ça, ça ne changera pas, je suis comme ça, ce n'est pas ma personnalité, mon caractère. Quand personne dit ça, elle est en train de dire, autrement dit, je suis rempli d'orgueil, tu comprends? Et je n'ai jamais vu un orgueilleux être heureux. Je n'ai jamais vu un orgueilleux être heureux. Tout le temps en train de se plaindre. Cinquième et dernière habitude. Chaque jour, oublie ce qui est derrière, que tu ne peux pas changer. Et focalise-toi sur le futur. Ton passé est passé, c'est fait, c'est fini. Lâche ton passé. Arrête. Arrête. Arrête de prendre soin de ton passé. On a tous fait des erreurs. Tous. Si je demande ici, qui aimerait retourner parfois dans son passé pour changer des choses? On lèverait tous la main, je suis sûr. Est-ce qu'on aimerait changer des choses dans notre passé? Oui. Est-ce qu'on peut? Non. Donc, construis ton futur en bâtissant ton présent. Ne laisse pas une personne qui t'a fait du mal il y a peut-être 20 ans te faire du mal encore intérieurement aujourd'hui alors que tu ne la vois même plus. Peut-être que ces séquelles-là encore te font souffrir aujourd'hui alors que la personne est en train de manger un bon steak, elle n'est pas là du tout avec toi. Lâche ton passé. Laisse Dieu te délivrer de ton passé. Je comprends, frère et sœur, en tant que pasteur, des fois, je me dis, Seigneur, certains ont des vies peut-être plus difficiles que d'autres, et c'est vrai. Je suis désolé pour certaines vies, certains passés douloureux, d'enfants difficiles, avec des familles totalement déstructurées, dures. Mais en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses redeviennent nouvelles. Lâche ton passé. Découvre qu'à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. L'apôtre Paul dit, je focalise toutes mes énergies sur cette seule chose. Oubliez le passé et regardant devant à ce qui reste à venir. Je m'efforce d'atteindre la fin de la course et d'obtenir le prix pour lequel Dieu, à travers Christ Jésus, nous appelle au ciel. Le mot oublier, ça signifie je néglige. J'arrête de considérer mon passé comme important. J'arrête de laisser mon passé dicter mon présent. Je libère les gens qui m'ont fait du mal. J'arrête de vivre dans le remords. J'arrête de vivre dans le regret. Et je dis oui, j'ai eu une seconde chance à cause et grâce de la croix de Christ Jésus qui a fait de moi une nouvelle créature. Et maintenant, je libère les gens, je les pardonne. Premier piège, c'est les regrets. Deuxième, c'est le non-pardon. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Libère-les pour que tu sois en paix dans ton présent. Demande à Jésus de te donner la force et pardonne, libère. Dieu veut te rendre heureux. Ecclésiaste 7:10 nous dit ceci. Nous ne demandons pas pourquoi le passé a été meilleur que le présent. Il n'est pas sage de se poser cette question. Waouh. Arrête de croire qu'avant c'était meilleur. aussi. Ou si c'était pire, oh, t'as pas besoin de rester dans ce qui est pire. Ça va être meilleur. Mais Dieu veut faire des choses nouvelles. Isaïe 43, 18 nous dit, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. Dieu veut faire du nouveau avec toi. Et le nouveau qu'il veut faire, c'est de donner un futur riche en paix. Donner un futur et un présent riche en joie. C'est te faire découvrir ô combien sa grâce pour toi déborde. C'est te faire découvrir ô combien tu es toi la prunelle de ses yeux. Et qu'il t'aime, toi personnellement. Et si tu apprends à le connaître, tu expérimentes Christ Jésus. La vie éternelle. La vie qui est au-dessus. Sa vie. Il veut faire de nous et au travers de nous des choses nouvelles. Te donner un futur radieux. Alors arrête de regarder à ton passé. Regarde à Christ et à ton futur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'applaudissements à Jésus? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le roi des rois et glorifier le roi des rois? Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, l'honneur, la majesté. Merci Jésus, merci pour la croix, merci pour ton sang. Apprends-nous à nous reposer dans la grâce, dans ta grâce et ta miséricorde. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous aime.